Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter donc Madame Fabie Bernard, qui a été la directrice de la maison de la mère et de l'enfant pendant de 1981 à 2005. Moi, j'ai commencé à travailler en 1985 et j'ai arrêté fin 2011 suite à des coupes budgétaires. Bien. Donc, j'ai proposé à Madame Fabie Bernard de venir nous parler du travail qui se faisait à la maison de la mère et de l'enfant. Et je pense que c'est intéressant parce que c'est le point de vue de la directrice, de l'ancienne directrice, et ça va peut-être vous donner l'occasion de réfléchir un petit peu plus à la clinique que j'essaye de vous enseigner ici. On va réserver un petit temps de discussion. Hein, je propose qu'on se donne jusqu'à 11h24, comme ça on prend un petit quart d'heure pour discuter avec vous. Je vais faire un micro baladeur pour qu'on ne se lève pas trop. Alors, je donne la parole.
Merci. Alors, comme Max Kuhn vient de vous le dire, j'ai connu un avant Max Kuhn et un après Max Kuhn. Donc, j'ai pris mes fonctions en 81. L'institution en 81 était ce qu'on appelle un hôtel maternel. C'est-à-dire qu'on recevait des femmes aux 2 mois de l'enfant et jusqu'aux 12 mois, un temps de séjour de 10 mois en tout. C'était une institution qui avait néanmoins quelques spécificités, à savoir qu'on avait un accueil de femmes majeures, sans limite d'âge supérieur, un séjour qui était court. Et on avait fait le choix de ne pas avoir de critères d'admission en dehors du fait que les femmes étaient majeures, si bien qu'on s'est trouvé à traîner des femmes sans titre de séjour qui n'étaient pas accueillies ailleurs, parce que le fait d'avoir ou pas un titre de séjour n'était pas rédhibitoire. Les femmes accueillies avaient un projet d'insertion, avaient une demande d'aide immédiate, un toit, une crèche pour leur enfant. Et comme dans tous les établissements maternels, on était supposé travailler la relation mère-enfant. Outre la durée du séjour, la spécificité, la maison par rapport aux autres institutions, notre réputation en quelque sorte, puisqu'il n'y avait pas du tout une réputation surfaite, c'était qu'on avait un cadre de travail très précis. Les femmes étaient accueillies, enfin il y avait un lien contractualisé dans leur séjour, le règlement n'était pas fait pour celles qui étaient assez bêtes pour le respecter, il y avait le principe du paiement de la pension, l'obligation de confier le bébé, la place et le rôle de chaque catégorie de personnel étaient très très bien définis. Donc, la place des psychologues et des psychanalystes, on disait des psys, ça nous évitait un distinguo, était également bien définie. Ils participaient déjà aux entretiens d'admission, il y avait déjà 2 entretiens, un avec moi, un avec un des psys. Il participait aux synthèses et aux réunions. Il y avait ce qu'on appelait des entretiens. Alors là, je me démarque un tout petit peu de ce que Max Kuhn a dit dans son livre, où il parle d'analyse. C'est sans doute comme ça qu'on lui a présenté le travail. Mais je dirais que c'était un peu des entretiens informels. Et ces entretiens, ils étaient la plupart du temps déclenchés par les équipes en difficulté, quand une maman n'allait pas bien, quand un enfant n'allait pas bien, SOS, psychologue, il faudrait que vous la voyiez en entretien. Donc les entretiens n'étaient pas obligatoires, mais dans certaines circonstances, elles étaient gentiment invitées quand même à faire quelque chose et à nous rassurer en allant en entretien aussi. Il y avait également une présence informelle des psys qui passaient du temps à la crèche, qui recevaient un éducateur en difficulté, une assistante sociale qui avait envie de se mettre une difficulté particulière. Donc voilà comment a été définie, grosso modo, l'intervention des psys. Et je dois dire que c'était, somme toute, très banal. Ça se faisait comme ça dans toutes les institutions. Avant d'arriver là, j'avais des expériences dans l'enfance inadaptée ou autre, et c'était la place des psys telle qu'elle se pratiquait partout. Pour préciser également, les réunions de synthèse envoyaient plusieurs cas en 2 heures. Ça, c'est assez clairement dit dans le livre. On voyait plusieurs cas, la parole était libre, intervenait qui voulait. Voilà. La synthèse était déjà ponctuée par l'intervention des psys, mais quand j'ai essayé de me remémorer un peu, parce que ça fait quand même 8 ans que j'en suis partie et que Max Kuhn m'a proposé de faire ça vendredi, donc j'ai fait une petite plongée dans la mémoire. Je pense que j'aurais oublié de vous dire beaucoup de choses et qu'en prenant le métro, ça cavalera encore. En tout cas, le mot qui m'est venu pour essayer de qualifier un peu la manière dont étaient ponctuées les synthèses par les psys, c'était un peu une explication de ce qui se passait, émaillé de quelques concepts psychanalytiques qui passaient au-dessus de la tête de beaucoup de gens. Alors, lorsque Manson rejoint l'équipe, très très vite, il nous dit qu'il ne pourra pas continuer ce type d'entretien, et il propose le fonctionnement qui est bien décrit dans le livre, notamment au niveau du fonctionnement de synthèse. On ne voit plus qu'un seul cas, la parole est distribuée de manière très précise, et il me semble qu'il a oublié de dire qu'il insiste beaucoup sur le fait que lorsque quelqu'un a pris la parole, il doit ressortir une question. Pourquoi je vous ai raconté tout ce que je vous ai raconté dans le propos de cette femme? Ce qui effectivement se fait un peu un précipité chimique, hein. Tout d'un coup, pouf, on sait pourquoi finalement on a raconté tout ça, qu'est-ce qu'il y avait derrière. Ça m'a paru tout de suite très intéressant. Il ne souhaite pas continuer cette présence informelle, il ne souhaite pas continuer les entretiens. Donc vraiment, le dispositif de la réunion de synthèse, c'est un dispositif tout à fait majeur au niveau de son intervention. Il veut continuer à faire les entretiens d'admission et donc à partager avec la direction la responsabilité de l'entrée d'une femme dans la maison. L'effet de l'interprétation des psychanalystes, mais disons du psychanalyste, parce qu'au départ c'est quand même lui qui soutient complètement ça, ben évidemment, comme il l'a expliqué d'une manière dont je ne m'aimerais pas du tout de le faire, il va modifier cet effet-là, c'est de modifier la représentation qu'on a d'une femme, d'un enfant, de ce qui se joue derrière tout ce que nous on perçoit comme étant des difficultés. Et l'effet de cette modification, dans nos représentations à nous, on peut dire qu'elle a immédiatement un effet sur la manière dont on va accompagner un bébé ou une femme. Pour moi qui suis directrice, j'ai souvent entendu Max Kuhn dire « Oui, vous avez soutenu le truc. » Alors, je vais quand même vous avouer que soutenir le truc, ça n'a pas été si simple que ça. Hein, parce que j'avais devant moi une équipe qui disait « Ah bon, mais on ne fait plus d'entretien maintenant, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qu'on fait si on ne fait plus d'entretien ?» qui était extrêmement dérouté par cette nouvelle façon de travailler, et puis il ne vient plus nous voir dans les sections de crèche, donc il s'en fout de ce qui se passe, ça sert à quoi tout ça, on en fait quoi de tout ça, etc., etc. Donc une équipe de crèche, mais enfin, d'une manière générale, assez désarçonnée par ce travail nouveau auquel elle ne voyait pas du tout comment elle pouvait prendre part. Ça m'a paru long, je ne suis pas sûre que ça a été si long que ça, mais en tout cas, un jour, je me suis dit, la bagarre est gagnée. Parce qu'une auxiliaire me dit dans un couloir, elle dit, ça c'est quand même pas banal. Ce matin, on a parlé de cet enfant qui pleure à la crèche, donc on n'a jamais réussi à adapter vraiment. Et puis, cet après-midi, il s'est arrêté de pleurer. Alors je me suis dit, là, ça y est, on a gagné la bagarre, parce que si elle fait le lien entre le fait qu'on a parlé de l'enfant le matin et que vraiment, l'après-midi, elle constate qu'il se passe quelque chose, ben, ce lien-là est essentiel. Et là, voilà, on peut espérer que les choses vont se tasser, que les angoisses vont se taire, etc. etc. Bon, autre difficulté pour moi en tant que directrice, comme je vous l'ai dit, pas tout à fait gratuitement, c'était une institution où il y avait un cadre précis. On était parfois dans les réunions traitées de goulag. Donc, il fallait rendre ce cadre compatible avec ce propos. Il n'était pas question de faire céder le cadre parce qu'on avait une interprétation analytique. Donc là aussi, il fallait quand même accompagner un peu les équipes et dire, mais qu'est-ce qu'on va faire de ça? Comment on va utiliser ça dans notre quotidien? C'était surtout le démarrage. Quand après la synthèse, il se passait des choses extrêmement difficiles avec un enfant, que l'angoisse montait, etc. Bon, pour moi, c'était un très très grand support de revenir à ce qui avait été dit et de le rappeler. Je prenais toujours un minimum de notes très très concises d'ailleurs, quelques mots-clés pour pouvoir dire à l'équipe, oui, mais écoutez, bon, on a entendu ça, donc on va peut-être pouvoir temporiser un peu, on va pouvoir se calmer, etc. Donc, faire un peu un accompagnement d'équipe autour de ça. Ce qui revient à dire, évidemment, que c'était une caution et un soutien très, très, très précis à cette parole-là. La faire vivre, la rappeler, etc., etc. Je ne sais pas si c'est très très utile, j'avais une fois fait un petit topo pour expliquer ce qui se passait concrètement. Donc, je vous le dis, ce n'est pas très long. Donc voilà, lorsque tout le monde a pris la parole au niveau d'une synthèse, on se trouve devant quoi? On se trouve un peu comme devant une espèce de pièce d'un grand puzzle en tas. Alors, se côtoient, s'empilent, se chevauchent, les dires de l'éducatrice, de l'assistante sociale, de la puéricultrice, de l'auxiliaire référente de l'enfant, dans leur diversité, dans leur incomplétude, dans leur opposition et même dans leur incompatibilité, au moins apparente, tous passer au feu des subjectivités respectives des uns et des autres. Subjectivité, c'est quelque chose aussi qui faisait l'évolution parce qu'on avait toujours l'habitude d'essayer d'être objectif. Le propos du psychanalyste se charge de trouver des liens entre une histoire maternelle et l'ici et maintenant de la relation mère-enfant, entre la souffrance d'un bébé et la souffrance d'un autre enfant qui est la mère, et qui a amené l'enfant qu'elle était, et qui entend soigner cet enfant dans l'institution. ça fait un lien entre la place où nous sommes et la place où nous sommes mis, entre le statut de notre question et le statut de la question de l'enfant. Se dire du psychanalyste, non pas comme un savoir préétabli, mais comme quelque chose qui se déduit de tout ce qui vient de se dire, ce jour-là, et à propos de cette mère-là et de cet enfant-là. C'est se dire du psychanalyste qui fait se reconstituer, se recomposer l'embryon du puzzle à partir de deux ou trois pièces qui s'ajustent et s'ouvre sur tout autre ajustement à venir. Parce que, en effet, quand une synthèse se conclut, très souvent, à notre grande surprise, c'est pas forcément ce qu'on avait cru important de dire, c'est des fois une anecdote, un petit truc qui va permettre, entre autres à Max Kohn, d'emboîter une ou deux pièces comme ça. Et j'ai le souvenir, un espèce de flash d'ailleurs, que je pourrais pas trop vous étayer, mais je me souviens que j'avais dû raconter dans une synthèse que j'étais en train de téléphoner à un père et d'essayer de démêler une histoire abracadabrant, enfin bref, j'étais aux prises avec ce monsieur. La porte du secrétariat était ouverte sur le hall, et telle une princesse, la maman traversait le hall. Je me suis dit, c'est quand même un peu raide, c'est moi qui me dépatouille avec ça, et en fait, c'est là-dessus que vous aviez rebondi. Juste pour vous donner des petits trucs un peu vivants. Voilà. Alors, comme je vous l'ai dit, la partie, je l'ai considérée vraiment comme gagnée à partir du moment où le lien a été fait avec un travail en synthèse et la réaction de l'enfant presque immédiate. Et en effet, cette réactivité des bébés au fait que les adultes qui s'occupent d'eux savent à quelle maman ils ont affaire, eux, qui n'est pas la maman que nous on connaît, a été assez spectaculaire, au point que, quand il m'arrivait de parler de la maison et du travail qu'on y faisait, je m'étais sentie autorisée à dire que la relation mère-enfant, en fait, c'était le bébé qui tirait l'attelage, et non pas, comme on pouvait le penser, la maman. Ensuite, le soutien à ce travail est passé évidemment par la présentation de ce travail chaque fois que j'ai dû recruter des collaborateurs, aussi bien à la crèche que dans l'équipe éducative ou autre. Ça a été d'apprendre à présenter ce travail et à vraiment faire des recrutements autour de l'adhésion à ce travail-là. Voilà. Et lorsque je faisais les entretiens d'admission avec les mamans, j'essayais, sans dire quoi que ce soit, au moins de faire passer quelque chose de ça quand je leur présentais comment on allait travailler avec elles. Voilà en quelque sorte quelle a été la spécificité pour moi de ce travail. Et je dois vous dire que c'est vraiment un travail, si je n'ai pas toujours brillé, parce que au fond, je veux dire, moi aussi, pour moi, ce n'était pas évident de comprendre là où on allait, etc. Et j'étais seulement armée d'une intuition un peu têtue, mais comme toutes les intuitions, quoi, on les remet en cause. On se dit, mais est-ce que je ne suis pas en train de me planter en soutenant ça? Et c'est avéré très vite que ça nous a, enfin moi, ça m'a donné énormément de force pour canaliser les angoisses, pour présenter le travail au niveau des instances comme la DASES, etc., pour éviter des passages à l'acte catastrophiques sur des placements d'enfants. Ça a été une très, très, très grande force. Et si j'ai accepté d'être là aujourd'hui, c'est parce que quand Max Kuhn m'a dit... D'abord, il m'a donné envie de vous transmettre quelque chose de la manière dont il parlait de vous. Et je me suis dit, eh bien, tout d'un coup, je me sentais que j'avais la même force. Quoi. Je suis rentrée chez moi, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais leur raconter? J'ai tout oublié. Mais le sentiment de force que je pouvais vous dire quelque chose sur ma place. Voilà, ça fait que je suis là. Alors, on avait convenu que vous laissiez un petit peu de temps pour des questions. Mais on avait convenu aussi un petit temps, 10 minutes pour lire une petite nouvelle.
Bah, peut-être le matin.
Alors, je ne suis pas un écrivain, mais j'ai éprouvé le besoin, ce qui veut dire que quand même, c'est quelque chose qui m'a marqué au moment de la retraite, c'était d'écrire des petites nouvelles sur des choses qui avaient été importantes pour moi, comme s'il fallait que je continue à faire vivre cette expérience. Et je ne fais plus. mais en même temps, je ne peux pas lâcher complètement. Je l'ai fait, puis quand je ne le fais pas, je ne suis pas bien, puis quand je ne le fais pas. Alors, je retire tout à fait votre indulgence, et vous aurez le droit de me poser toutes les questions qui vous passent par la tête, y compris celles qui sont indiscrètes. Sur le siège, de l'autre côté du bureau, les épaules et la nuque douloureuse, son regard prévient le refus. M'allège déjà de la responsabilité du refus. Elle vole à mon secours, se met à ma place, comprend et ne m'en veut pas de ne pas pouvoir, de ne pas vouloir l'accueillir. À peine risquée, sa demande est retirée. Elle sait bien qu'elle n'est pas la seule dans cette situation et qu'il y en a d'autres, beaucoup d'autres, qui comme elle ont besoin d'une place dans cette maison et qui sont dans des situations beaucoup plus... Enfin bref, elle est prête à partir, là, tout de suite, avant même que l'entretien n'ait eu lieu. L'entretien, c'est le titre de la nouvelle, c'est toujours un événement à apprêter, à apprivoiser pour mieux l'esquiver. Dans le flux des demandes à être admises dans ce lieu, dans le leitmotiv des « je suis une mère en difficulté à la recherche d'un lieu sûr où vivre avec mon enfant », sa lettre, une bouteille à la mer, juge d'application des peines, libération conditionnelle, un lieu sûr où vivre avec le bébé que j'attends, un nom, un prénom, le numéro d'une cellule, une ville éclipsée par la notoriété de sa prison, Fleury. La demande est osée, inimaginable, sauf à se réfugier derrière l'autorité du juge qui la cautionne et peut-être même l'intime. Surtout, ne pas se focaliser sur l'adresse et faire signe. Signe que j'ai entendu, reçu, lu, tant d'entrebâiller leur fermement, ne serait-ce qu'un instant, celui de la rencontre, quelqu'un qui veut bien l'écouter, l'aider peut-être, quelqu'un que ça demande à cul. D'abord, ne pas s'attendre à une personne, être sans a priori. The cul. Exhortation inutile, ça pense en moi, malgré moi. Et pourquoi? Pour quel délit cette femme-là, devant moi, est-elle incarcérée? Vol, drogue, prostitution? Au fait, est-ce qu'on est une incarcère des femmes pour prostitution? Non, non, non. Ne pas se précipiter sur cette question. Ne pas chercher trop vite à savoir. ne pas l'enfermer une seconde fois, s'intéresser à la femme, à la jeune fille, à l'enfant qu'elle a été, à son histoire en quelque sorte, s'accrocher à sa vie d'avant l'incarcération, d'avant l'accro, aller la chercher dans sa famille, au milieu de ses parents, ses enfants, ses frères, ses sœurs. Ouais. Sauf qu'elle n'a pas de parents et pas de famille. Mais pas même une famille d'accueil. Mais... Donc, pas de creuset où ce serait expérimenté pour une première fois l'amour. Pas d'histoire. Il y a toujours une histoire. Il faut qu'elle fasse un effort, qu'elle mette un peu de bonne volonté, de bonne foi. Ce petit air malheureux, vulnérable, qui vous dissuade d'aller plus loin, une parade pour garder son cœur à soi, pour mieux me tenir à l'écart, un sourire. En tout cas, quelque chose qu'elle se raconte à elle-même depuis toujours. En fait, un débris d'histoire. Elle est toute petite, et sa mère, très belle, est assise à côté de son lit d'hôpital, elle est très belle. Et puis tout à coup, comme elle avait fait à elle-même, cet épisode, la recherche de gens qui avaient connu sa famille, une adresse indiquée dans son dossier d'ASES, un nom de rue, une ville de province. Les gens, et comment ils ont connu sa famille? Ricanement, hochement de tête en guise de réponse à ces questions. Personne pour lui raconter son histoire. Une histoire telle qu'elle puisse s'aimer, s'estimer un peu, pleurer, s'émouvoir, disculper le sien peut-être. Rien à se représenter, ni pour elle, ni pour moi donc. Ne pas renoncer. Tenter encore de la saisir dans quelque chose de vivant. Dans ses rapports amoureux peut-être, avec le père de l'enfant. Et le père de l'enfant, un homme de passage, elle ne se souvient pas très bien. Elle ne cherche pas à se souvenir. À moins que ce soit elle qui soit de passage dans la vie des autres. Avez-vous vécu ensemble? Combien de temps vous êtes-vous fréquenté? Vous fréquentez-vous toujours? Comment viviez-vous? Est-ce que vous l'avez aimé? Est-ce que vous avez eu du chagrin? Est-ce que vous avez eu des nouvelles? Acharnement. Acharnement vain. Et le travail? Ça, c'est concret, le travail. Le travail, c'est concret pour ancrer quelqu'un quelque part. C'est concret si on n'est pas au chômage. Elle, elle a toujours été au chômage, au RMI. Elle a vécu de ci, de là, chez des copains. Mais il n'y avait rien entre eux. Chez des copines aussi. Ah, elle a des copines. Enfin, des gens comme ça qu'elle ne voit plus. Entretien au forceps. Tiens, il y a un premier enfant. Il est là, sur la fiche de renseignement, celle qui accompagne obligatoirement la première demande, à la rubrique « Avez-vous d'autres enfants ?» Enfin, quelque chose à se mettre sous la dent. Faire exister ce premier enfant, réveiller son sentiment maternel, la faire parler, vibrer, attraper la mère en elle. Et ce premier enfant, un garçon, une fille, comment s'appelle-t-il? Quel âge a-t-il? Où est-il pendant que vous êtes incarcéré? Il est décédé. Chape de silence. Le faire exister quand même. Et à plus forte raison, insister. Se faire préciser son nom, son âge, celui qu'il avait quand... Enfin, celui qu'il aurait si... 6 jours. Il avait 6 jours. Et c'est pour ça qu'elle est en prison. Comment? Mais quel rapport? C'est une erreur. C'est pas possible. Pas elle, là, devant moi, toute soumise, inoffensive. Il faut qu'elle comprenne que je suis son amie, son alliée, que je lui fais confiance, qu'elle peut m'expliquer, qu'elle doit se défendre, se justifier, qu'elle me donne des détails. Enfin, des preuves que ça ne peut pas être elle, qu'il y a erreur judiciaire, médicale, un accident peut-être, que sais-je. À moi, elle peut tout expliquer, se justifier à tête reposée, dire son fort intérieur, revenir sur les déclarations, sur ce qu'on l'a empêché d'expliquer, sur ce qui a été contré avant même qu'elle n'ait pu finir ses phrases, dans des interrogatoires traumatisants qu'il a présumés coupables. Elle était seule avec son enfant, les pompiers étaient arrivés, seulement c'était trop tard. Mais qui les a appelés? Qui? Elle ne sait pas. Et elle croit que c'est elle. Ça ne pouvait être qu'elle. Enfin, c'est ce qu'ils ont dit. Mais si c'est elle qui les a appelés, ça ne peut pas être elle. Elle ne se rappelle pas. Elle ne sait pas. Mais vous, qu'est-ce que vous croyez, vous? Elle, elle croit que c'est elle. Donc pour l'épilogue, je lui ai quand même, quand ça, la nouvelle est close, je lui ai quand même dit que je pensais que être incarcéré c'était une chose, pour des histoires qui seraient vol, drogue, enfin je ne sais pas, mais être incarcéré pour un présumé meurtre d'enfant c'était autre chose et que je ne pouvais pas lui proposer le deuxième rendez-vous. Sans en avoir parlé. Et c'était le tout début de Max Cohn à l'établissement. Il a immédiatement dit que, compte tenu de la force des fantasmes dans un lieu comme ça, on ne pouvait pas aller plus loin avec ces femmes. Voilà.
Merci beaucoup. Je m'en souviens. Quand vous m'avez parlé de ça, vous m'avez dit, je m'en souviens. Pas vraiment. Ça m'est revenu. Hein,
ouais.
On ne sait pas ce qui s'est passé. Hein, en fait.
Non.
Alors, on croit que le mieux, c'est de faire circuler la parole. C'est de faire un avis. C'est un peu plus loin que là où elle est fichée. Quand il y a l'université. Alors, qui peut se laisser prendre par la parole? Vous levez la main et puis voilà. C'est assez impressionnant.
Et vous parlez de votre histoire, et pourtant que la semaine dernière, je vois un reportage sur la 2 qui parle sur la paternité imposée. Ça m'a réuni comme ça, à fond. Et c'est vrai que personne ne comprend pourquoi il y a l'enfant qui vient dans une relation avec lui. On s'est dit, c'est la faute de la mère avec choix, contraception, IVG, et donc manifestation, pourquoi les hommes ne peuvent pas avoir aussi un choix d'avorter. Et c'est vrai qu'une femme, quand elle accouche toute seule, je pense qu'elle ne l'a pas voulu. Des fois, je crois énormément au début de la grossesse. Je le crois fort comme quelque chose, qu'on a besoin d'eau pour survivre. Et même des fois, je me pose la question comment on a cette capacité de se dire à bébé dans les corps. Et après, je me plonge dans la science exacte, avec la médecine, ces hormones qui stimulent la protection. Mais pourquoi, en stimulant cette protection, ces hormones, il y a des mamans qui protègent l'enfant, mais qui ne savent pas qu'elles sont enceintes. Les autres qui le savent. Et même, il y a certains qui savent, même le jour qui nous fait fonder le bébé. Ouais, cette capacité de se rendre compte, elle n'est pas tellement simple. Et de leur parler, surtout de leur parler, de dire « je suis enceinte, tu es le père ». Toute cette capacité, cette force, c'est une force. Parce que l'enfant est là pour te le protéger. Et après, comment se manifester parmi sa famille, parmi les amis, quand on ne travaille pas, qu'est-ce qu'il faut faire. C'est la plupart du temps, je pense que tous ces mamans, moi aussi, je me rappelle que je voulais un peu me replier sur moi, mais il y a eu un moment que je dis, non, il faut que je sorte, il faut que je demande, il faut que je lance un SOS, parce que je ne pouvais pas faire plus. Et c'est comme ça que j'ai arrivé à la maison de l'enfant, et que je vous ai parlé de mon histoire, et comme toujours, je vous dis au ratus. Là, on avait changé avec cette foi, avec cette finesse d'accueillir, en tout cas, on avait accueilli avec une finesse un truc de chanter. Donc, je tiens quand même à vous remercier de tout ce que votre institution, ou l'institution qui vous a fait partie, a produit sur mon enfant, et bien sûr sur moi. Et que depuis ces jours-là, j'ai quand même aucune dette. Quand je l'avais avec ma mère, j'avais une dette de vie. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai une dette vis-à-vis de cet accueil qui m'a apporté quand même des choses très positives.
Alors, si vous avez...
Oui, juste une petite remarque.
Je vous en prie.
Je n'ai pas au courant d'une chose, c'est que j'avais proposé à Carina Ponce, son nom, je ne se cache pas quand je le nomme, qui est médecin en ligne sur mon site, un rôle de conférence, donc c'est pour ça que j'enregistre avec une photo. Mais quand je me dis votre nom, parce que c'est mieux, bon voilà. Mais elle, disons que comme c'est. Je l'ai déjà rencontré l'année dernière, comme étudiant, au colloque de Marie-Paul, organisé sur le bilinguisme. Je lui ai proposé de parler ici. Ce qu'elle a raconté, c'est que. À un moment, elle était assez déprimée, elle lui a dit vous, alors je ne travaille pas, hein, bon. Et puis, on la laisse tranquille, c'était un week-end, et je sais, elle me fait peur. À taper à la porte, je me souviens bien, mais là, on dit. C'est ce que j'ai dit, tout ce que vous avez raconté, je m'excusez. C'est comme une sanction. Hein, c'est quelque part, j'ai dit, c'est le Cooper, et toute l'institution, marque un certain respect, pas de mots, quant à la souffrance subjective. Ce ne sont pas des objets qu'on observe. Je crois que c'est important.
C'est deux jours que je n'avais pas donné de nouvelles à l'institution et que j'avais même un rendez-vous avec Ghislaine et que Ghislaine frappait la porte le dimanche parce qu'ils vont certainement être ici pour moi, je l'ai senti comme elle faisait confiance. Voilà. Et cette confiance, elle m'en fait ces jours-là. Je pense que ça m'a dit à m'en sortir de quelque chose que j'étais en train de me faire. Je ne sais pas. Et je me suis dit, mais elle n'en plus, on verra. Elle avait en plus, ma petite fille, elle ne bougeait pas beaucoup, pourtant elle va me tourner la porte.